France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le Hamas a publié ce matin les noms des 3 otages qui doivent être libérés demain. Parmi eux figure l'un des 3 franco-israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. On se rendra en Allemagne où un nouveau vote explosif est prévu aujourd'hui sur l'immigration. Et comme la semaine dernière, eh bien les députés de l'extrême droite pourraient unir leur voix à celle des conservateurs. Comment le Brexit continue-t-il à nourrir les débats politiques au Royaume-Uni 5 ans jour pour jour après son entrée en vigueur? On posera la question à notre invité. Enfin, nous serons à l'Assemblée pour la fin prévue des travaux de la commission mixte paritaire censée aboutir à une version commune du budget de l'État. Savez-vous ce que c'est que d'être là-bas chaque heure passée ? Est un enfer, il est vrai que je suis vivante et que je respire, mais dans mon âme, j'ai été assassinée. Ces mots, ce sont ceux de Sahar Calderon, 16 ans, ex-otage franco-israélienne, libérée le 8 février de l'année dernière, après 124 jours de captivité dans la bande de Gaza. Et ce matin, on a appris que son père, toujours aux mains du Hamas, figurait sur la liste des 3 otages que le mouvement islamiste doit libérer demain, en échange de 90 prisonniers palestiniens. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, Ofer Calderon, kidnappé le 7 octobre 2023 et séparé de ses enfants depuis son enlèvement. Il fait partie des 3 otages franco-israéliens encore aux mains des terroristes. Et ce matin, Thibault, vous avez pu vous entretenir avec ses proches.
Oui, et notamment avec son oncle, il s'appelle Yishai Dan. Yishai Dan, c'est un homme âgé, il est complètement déprimé depuis l'enlèvement de son neveu il y a 483 jours. Et au moment où j'ai pu le joindre, seulement quelques minutes après la publication de la liste des 3 hommes libérables, quand il a appris qu'il allait sans doute revoir Ofer dans moins de 24 heures, eh bien il était dans une salle d'attente chez son dentiste.
Mon cœur bat très fort et je me sens très heureux. C'est incroyable. C'est la première fois que je me permets d'être optimiste. Je sais qu'il n'est pas blessé maintenant. Je sais qu'il n'est pas malade maintenant. Et je sais qu'il est vivant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je continuerai de faire tout ce qu'on peut faire pour délivrer les autres, ceux qui ne sont pas encore libérés.
Demain, les enfants d'Ofer, Erez et Sar, dont vous avez parlé tout à l'heure, eux aussi enlevés le 7 octobre, mais libérés lors de la première trêve il y a 14 mois, devraient l'attendre dans un centre spécialement aménagé à la lisière de Gaza. Ofer Calderon est un des 2 Français encore otages à Gaza aujourd'hui. L'autre s'appelle Ohad Yahalomi et on ne sait pas s'il est vivant.
Et il faut encore préciser, Thibault, que demain, 2 autres otages donc seront libérés.
Oui, 2 autres hommes, Kis Sigel, 65 ans, américano-israélien, enlevé dans le kibboutz de Kfar Aza. J'avais rencontré son épouse Aviva, elle aussi prise en otage, mais libérée comme les enfants d'Ofer Calderon en novembre 2023, au bout de 51 jours de captivité. Elle décrivait alors un homme affaibli, mais combatif. Et puis l'autre homme libérable s'appelle Yarden Bibas, il a 34 ans, c'est le papa des 2 derniers enfants israéliens encore à Gaza, Kfir, 2 ans, et Ariel, 6 ans, pris en otage avec leur maman Shiri Bibas. Les images de leur enlèvement ont fait le tour du monde. Leurs visages sont sur tous les murs en Israël et c'est depuis plusieurs jours déjà tout un pays qui retient son souffle mais s'attend à l'inexorable. Si Yarden Bibas revient seul, que son épouse n'a pas été libérée avant lui comme le prévoit l'accord, eh bien c'est vraisemblablement qu'elle est morte avec ses 2 petits.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Une semaine à peine après que les conservateurs démocrates chrétiens ont brisé un tabou politique en mêlant leur voix à celle de l'extrême droite nationaliste et xénophobe, l'Allemagne va-t-elle revivre un nouveau psychodrame? Le Parlement est appelé à se prononcer aujourd'hui sur un texte visant à restreindre le regroupement familial des immigrés et étendre les pouvoirs de la police des frontières. Sébastien Baer, vous êtes à Berlin, le risque existe bel et bien que le scénario se répète alors même que le vote de la semaine dernière a déjà créé sur place un véritable séisme politique.
Oui, les déclarations, les réactions sont très fortes et pas seulement dans le camp du chancelier Olaf Scholz et de ses alliés écologistes. Il est question de rupture du cordon sanitaire, de tabous brisés ou encore de coopération avec les nazis. Hier soir encore, au moins 6000 personnes se sont rassemblées devant le siège du parti conservateur à Berlin. En signe de protestation, un député de la CDU a quitté le parti. Un rescapé du camp d'Auschwitz, âgé de 99 ans, a lui décidé de rendre sa décoration de l'ordre national du mérite. Et Angela Merkel elle-même même, pourtant membre du Parti conservateur, s'est indigné dans un communiqué lapidaire. D'habitude très discrète, l'ancienne chancelière a dénoncé une erreur. L'erreur pour Angela Merkel, c'est ce rapprochement droite-extrême droite, une alliance inédite depuis 1945, car il y avait jusqu'à présent un accord tacite entre les partis dits traditionnels, une règle qui excluait toute alliance avec l'extrême droite. Et bien mercredi soir, cette règle a donc volé en éclats. Hier, le chef des conservateurs, Friedrich Merz, favori du prochain scrutin, a répété qu'il ne formerait pas d'alliance avec l'AFD en cas de victoire aux législatives. Mais pour le chancelier Olaf Scholz, il n'est plus possible de lui faire confiance. Du côté de l'extrême droite, on espère que ce rapprochement, initié mercredi, marquera le début d'une coopération avec la droite allemande.
Quand le thème de l'immigration alimente aussi des débats houleux en Italie.
Oui, après que les autorités ont laissé s'échapper à un officiel libyen poursuivi par l'injustice internationale, la première ministre se retrouve à présent visée par une enquête. Et c'est ainsi qu'hier soir, Giorgia Meloni a répondu dans un show repris par les télévisions en mettant en cause les magistrats auxquels elle reproche d'être politisée. C'est une correspondance à Rome signée Bruno Duvic.
C'est une conférence sur des thèmes économiques à Milan, animée par un journaliste tout acquis à Giorgia Meloni. Soudain surprise. Buonasera. La première ministre apparaît sur le grand écran derrière l'estrade. Elle envoie un baiser. Un tutoiement échappe au journaliste Nicolas Porro. Après un premier monologue, elle fait semblant de dire au revoir, mais autre surprise. Sur insistance de son interlocuteur, elle accepte d'aborder le sujet du moment.
Ah, je m'en doutais, Nicolas, je vous reconnais bien.
Cette enquête ouverte contre elle.
C'est avant tout un dommage que l'on fait à la nation.
Ras-le-bol de travailler pour l'Italie alors que d'autres cherchent à défaire son travail.
Porro, vous vous souvenez de Pénélope, la femme d'Ulysse, la tapisserie faite et défaite? La tapisserie à moi pourrait faire le tour du stade olympique.
Suite une charge contre la magistrature.
Certains juges voudraient décider de la politique de l'environnement, de la politique d'immigration. Bref, ils veulent gouverner. Mais alors qu'ils se présentent aux élections, moi je ne céderai pas un pouce de terrain tant que j'aurai une majorité d'Italiens derrière moi.
L'opposition avait appelé Giorgia Meloni à s'expliquer au Parlement. Elle aura choisi un tout autre terrain.
Grazie, Presidente. Grazie davvero. Grazie a voi,
arrivederci. Et c'est encore sur fond de poussée de la droite et de l'extrême droite que le thème de l'immigration vient décidément submerger l'agenda européen. L'UE doit-elle ouvrir des hubs de retour pour les migrants? Et si oui, où placer ces centres? Et pour qui? Les ministres de l'Intérieur des 27 étaient réunis pour débattre de ces questions explosives à Varsovie. Et c'est là, jusque dans les couloirs de la citadelle polonaise, que le nom de Donald Trump a résonné. Pourquoi? Parce que la récente prestation du tempétueux président américain qu'un tord dans le bras à son homologue colombien pour le contraindre à accepter le rapatriement d'immigrés expulsés des États-Unis a visiblement bluffé les responsables européens et ainsi alimenté la discussion des 27 sur la stratégie adoptée face aux pays réticents à accepter leurs ressortissants expulsés d'Europe.
Eux se sont expulsés tout seuls, mais à quel prix?
Oui, ce sont nos voisins britanniques. Ce vendredi marque le 5e anniversaire de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Point final d'un long et fastidieux processus entamé en 2016 et qui, une demi-décennie plus tard, peine à trouver des motifs de satisfaction pour souffler ses bougies. Même si le scepticisme vis-à-vis de l'UE demeure un sentiment encore relativement fort aujourd'hui, le bilan du Brexit apparaît plus que contrasté. Alors comment cette sortie de l'UE continue-t-elle d'alimenter ou non les débats outre-Manche? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, est-ce que les Britanniques s'accordent aujourd'hui déjà sur les effets positifs ou négatifs du Brexit?
Alors oui, si l'on en croit les sondages, il y a... Et déjà depuis 2022, une majorité assez nette de Britanniques qui considèrent que sortir de l'Union européenne a été une erreur. Donc de ce point de vue-là, la situation a vraiment clairement évolué depuis 2016. Mais en même temps, et c'est un peu paradoxal, on parle très peu de Brexit au Royaume-Uni aujourd'hui. Personne n'a vraiment envie de revenir sur ce bilan négatif. La tension est passée à autre chose. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements depuis, bien sûr. Le Covid, la crise inflationnaire, les problèmes divers des gouvernements conservateurs, une nouvelle élection depuis juillet et de nouvelles difficultés économiques aujourd'hui. Donc le Brexit n'est pas vraiment dans le sujet. J'allais dire qu'on en parle presque plus en France aujourd'hui pour ces 5 ans qu'au Royaume-Uni, ce qui est un peu étonnant.
Pas plus tard que cette semaine, un sondage estimait effectivement que 55% des Britanniques seraient favorables à un retour dans l'UE. Est-ce que cette opinion, ou à tout le moins celle, disons, d'un rapprochement marqué entre Londres et Bruxelles, est-elle défendue par certains partis politiques ?
Alors, d'abord, il faut prendre quand même avec une certaine précaution ces chiffres. Il y a clairement un regard négatif sur le Brexit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une majorité claire de Britanniques serait prête à faire le chemin inverse. Donc, il faut vraiment rester prudent là-dessus. Après, oui, le parti travailliste au pouvoir, le gouvernement actuel de Keir Starmer, s'est fait élire en parlant très peu du Brexit, mais dans la mesure où il en a parlé, ça a été pour dire qu'il souhaitait se rapprocher des Européens, de l'Union européenne, sans pour autant revenir non seulement dans l'Union européenne, mais même ni dans le marché unique, ni dans l'union douanière. Donc pour l'instant, les pas que le gouvernement de Starmer serait prêt à faire sont plutôt de l'ordre soit des arrangements techniques pour améliorer le transport de marchandises entre le Royaume-Uni et le continent, soit, et ça c'est peut-être plus intéressant ou plus important, pour se rapprocher des Européens en matière de politique étrangère.
Et là, est-ce bien sûr, que les priorités avancées par Keir Starmer sont les mêmes que celles de la Commission européenne pour leurs futures relations ?
Alors, partiellement. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, tout ce qui rapproche les Britanniques et les Européens en matière de défense et de sécurité sera évidemment bienvenu. Pour le reste, les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Du côté de la Commission, il y a deux sujets qui, pour l'instant, dominent. La question de la pêche, qui est particulièrement poussée par la France, et un projet, pour l'instant, refusé par les Britanniques, de permettre une mobilité des jeunes Européens au Royaume-Uni et inversement pendant 2 ans. Mais il y a une telle crainte côté britannique de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à la libre circulation des personnes que pour l'instant, le gouvernement actuel a même refusé cette proposition-là. Donc vous voyez qu'on est encore très très loin d'un rapprochement réel.
Récemment, la chef du parti conservateur a, elle, déclaré que la décision de quitter l'UE avait été une erreur. Est-ce que les conservateurs sont en train, malgré tout, de faire leur aggiornamento sur le Brexit ?
Non, pas vraiment. Elle a pas tout à fait dit que le Brexit avait été une erreur. Elle a plutôt dit que les conservateurs, enfin le parti au pouvoir à ce moment-là, n'avait pas préparé le Brexit. Mais il y a toujours, au sein du Parti conservateur aujourd'hui, mais aussi bien sûr du Parti Reform de Nigel Farage, et dans une bonne partie de la presse et des médias anti-européens, il y a toujours cette idée que si ça se passe mal, et si le bilan est négatif, c'est pas parce que le Brexit était une mauvaise idée, mais c'est parce qu'il a été mal mis en œuvre. Ce qui est évidemment une pirouette pour éviter de se remettre en question. Donc on en est plutôt dans ce type de discours-là du côté de la droite et de l'extrême droite britannique aujourd'hui.
C'est bien compris. Merci Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique donc contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Si les combats ont désormais cessé à Goma, la ville de l'Est de la République démocratique du Congo pense encore ses plaies ce matin.
Oui, chaussée éventrée par les impacts de mortiers, vitrines brisées par les pillages, mais surtout les cicatrices de l'offensive éclair menée par les combattants du groupe armé anti-gouvernemental M23 pourraient préfigurer une nouvelle attaque. En quelques heures, les rebelles se sont dangereusement rapprochés de la capitale provinciale du Sud, Kivu, cette fois-ci aidés toujours en cela par les troupes du voisin et rival rwandais. Le Nicaragua est un modèle de démocratie directe, toute honte bue. C'est par ces mots que Rosario Murillo est devenue coprésidente avec son époux Daniel Ortega. A salué hier l'approbation par les députés de la réforme constitutionnelle venue consolider comme jamais le pouvoir autocratique et absolu du couple septuagénaire, dont l'emprise sur les organes de l'État comme la société civile est désormais totale.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Dominé par les soutiens soutien du Premier ministre François Bayrou avec 8 parlementaires à la manœuvre issus des rangs de la coalition gouvernementale et visiblement soudés et même imperturbables face aux menaces de censure de l'opposition. Le conclave réuni hier en commission mixte paritaire a repris ses travaux ce matin, bien parti pour aboutir à une version commune du budget de l'État. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de l'Assemblée nationale, ce matin étaient notamment décidés les crédits alloués à l'aide médicale d'État, dédiés donc aux soins des étrangers en situation irrégulière, avec au final, Antoine, une baisse de 111 millions d'euros par rapport au projet de budget initial.
Oui, alors l'AME qui, rappelons-le, prend en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière, sujet très sensible, entre le PS qui souhaitait sanctuariser le budget de l'AME et la droite qui voulait réduire le panier de soins. Eh bien, c'est finalement le centre qui a eu le dernier mot. L'amendement du député macroniste David Amiel a été adopté, soit le maintien des crédits de 2024, c'est-à-dire moins que ce que proposait la version initiale du projet, mais mieux que ce que proposait le Sénat. Pour résumer, c'est un gel des crédits de l'AME. Le socialiste Boris Vallaud revendique tout de même une victoire sur ce sujet.
Nous avons fait supprimer l'article 65 de la loi telle qu'elle était au Sénat et qui posait des conditions à l'aide médicale d'État et notamment au passage devant une commission médicale de façon préalable, qui était une façon déjà d'émousser des droits. Il n'y a donc pas de remise en question du dispositif de l'AME dans cette loi, comme l'auraient espéré les Républicains et le Rassemblement national.
Pour le RN, justement, Jean-Philippe Tanguy, le maintien du budget de l'AME version 2024, c'est une humiliation des LR sur le budget et l'immigration. L'insoumis Aurélien Coq fustige la Macronie et les soutiens du gouvernement qui, selon lui, coupent dans l'AME et de s'interroger, est-ce l'extrême droite qui gouverne ? Les conclusions de la CMP devraient tomber dans les prochaines minutes. Elles vont être examinées par les députés lundi. François Bayrou devrait pour la première fois faire usage du 49-3 pour faire adopter le texte sans vote. D'ici là, il pourra encore procéder à des arbitrages pour éviter la censure des députés.
Merci Antoine Maret, en direct de l'Assemblée avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques.
Les collèges et lycées sont priés de lever le pied sur le pass culture, victime de son succès.
Oui, le budget attribué par l'État à la part collective, c'est-à-dire aux établissements scolaires, est destiné donc à financer des activités d'éducation artistique et culturelle, vient d'être gelé jusqu'en septembre prochain. Héloïse Weiss, bonjour.
Bonjour.
Le ministère de l'Éducation estime qu'à ce jour, plus de la moitié du budget sur les 72 millions d'euros alloués au total est déjà engagé cette année pour les activités culturelles des établissements.
Rarement un dispositif aussi jeune n'aura été adopté aussi vite, à la fois par les élèves et les professeurs. Généralisé en 2021, le pass culture comporte deux parts. L'une est dite individuelle, ce sont les jeunes eux-mêmes de 15 à 18 ans qui disposent directement d'un crédit. L'autre part, elle, est dite collective. Là, ce sont les professeurs de collège et de lycée qui disposent d'un budget pour leur classe entre 20 et 30 euros par élève. Et ce dernier dispositif fonctionne d'après le site du Pass Culture. La quasi-totalité des établissements, 93%, ont financé des activités comme des sorties au théâtre grâce à ces crédits l'année dernière. Sauf que les budgets ont explosé. 97 millions d'euros ont été dépensés sur les 62 millions initialement attribués en 2024 d'après le magazine Télérama. Pour 2025, le budget est donc fixé à 72 millions d'euros, pas plus. Or, près de 40 millions ont déjà été dépensés. Le ministère de l'Éducation nationale a donc décidé de geler le budget à 50 millions jusqu'à septembre. Mais à la hâte, c'est seulement hier qu'il a été demandé aux professeurs de saisir leur réservation avant ce soir. Laurent Kaufmann est secrétaire fédéral du syndicat des personnels de direction CGEN-CFDT. Il dénonce ce manque de communication.
On demande aux chefs d'établissement du jour au lendemain de valider des projets culturels, alors que ça prend du temps de dialoguer avec les équipes enseignantes, avec les structures culturelles. Enfin, on met tout le monde en effervescence pour des raisons de restrictions budgétaires, mais aussi avec des outils informatiques qui sont pas robustes et qui en plus plantent parce que tout le monde se connecte dessus en urgence.
Les réservations doivent reprendre en septembre prochain. Les professeurs disposent encore de 22 millions d'euros dans le cadre de ce Pass Culture.
Merci Héloïse Weiss.
They've never seen a man with such pain.
Allez, comment ne pas terminer en musique pour saluer une dernière fois celle dont la voix rebelle avait tous les accents des excès du rock'n'roll, Sister Morphine, Marianne Faithfull, égérie légendaire du Swinging London aux scènes punk new-yorkaises, disparue hier à l'âge de 78 ans. Le temps pour cet après-midi sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui gagnera les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, le bassin parisien. Ciel couvert partout ailleurs, à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine et du Languedoc-Roussillon. Quelques éclaircies parviendront à se développer. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.